Les pompiers et les forces de l'ordre font face à une recrudescence de la violence dans certaines communes de Nouvelle-Calédonie, notamment à Touau et au Mont-d'Or. On fait le point en début de journal. Des centaines de jeunes convergent vers l'hippodrome de Bouraille en vue du pèlerinage de Téné. Plus de 700 chrétiens sont attendus. Voilà un an jour pour jour qu'Emmanuel Macron a annoncé dissoudre l'Assemblée nationale. Un séisme politique dont les répliques se font encore sentir aujourd'hui. Le spectacle est terminé. Israël intercepte le bateau de Rima Hassan et Greta Thunberg qui se rendaient à Gaza. Les 12 activistes vont désormais retourner dans leurs pays respectifs. Une formation pour améliorer le niveau des arbitres élites, c'est possible en ce moment sur le territoire grâce à la Fédération calédonienne de football. Deux formateurs de la FIFA venant de l'île Maurice et de Tahiti sont présents. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Ouvrons cette édition avec les faits divers et cette information qui vient de nous parvenir. L'école de la mission catholique de Saint-Louis a été en partie incendiée cet après-midi, Charlotte Coulson.
L'établissement avait pourtant été épargné durant les émeutes de l'année dernière, mais aux alentours de 15h30 cet après-midi, les forces de l'ordre postées au verrou de Saint-Louis ont aperçu de la fumée en provenance de la tribu. Les pompiers sont vite intervenus et ont pu maîtriser les flammes qui ont tout de même ravagé une partie d'une salle de classe. Le plafond a été brûlé, la porte défoncée. Les flammes ne se sont pas propagées au-delà. Les gendarmes sont mobilisés pour déterminer l'origine de l'incendie, encore inconnue. La mairie du Mont-d'Or déplore de son côté cet acte et affiche son soutien à la DEC. À Saint-Louis, toujours, un automobiliste a été violemment caillassé ce matin à coups de marteau balancé sur le pare-brise. Cela s'est passé vers 7h alors qu'il circulait sur la RP1 devant la tribu de Saint-Louis. En direction de Plume, le conducteur aurait d'abord aperçu un piéton au milieu de la route. Il aurait alors lancé le projectile qui a fait exploser le pare-brise. Le conducteur n'est pas blessé, mais une enquête est en cours. Un suspect a été interpellé. Les précisions du général Mathéos, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie.
Sur Saint-Louis, nous avons un dispositif qui est particulièrement conséquent puisque ce sont plus de 250 gendarmes qui sont engagés sur cette portion de route. Malheureusement, cela ne suffit pas à faire face à toutes les actions violentes qui peuvent se passer. Ce dispositif est dissuasif, il permet de réagir tout de suite. Mais ce matin, donc un automobiliste a été victime d'un jet d'un marteau dans son véhicule. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Toujours est-il que cet automobiliste a été bien sûr choqué et on peut comprendre. Nous avons pu immédiatement réagir et interpeller la personne qui avait donc projeté ce marteau. Alors je souligne qu'il s'agit d'un fait de nature assez exceptionnelle. Nous n'avons pas eu de fait de cette violence depuis bien longtemps. Je souligne aussi que je travaille tous les jours avec les autorités coutumières pour que ce type de comportement isolé ne se reproduise pas. Et je sais que de leur côté, il y a un travail qui est fait avec les jeunes notamment. Mais il y a clairement dans la tribu des gens marginaux qui échappent à tout contrôle. Et c'est cela dont nous devons nous prémunir.
Et malgré cet incident, la route devant Saint-Louis est toujours praticable pour les usagers. La traversée se fait par convoi la nuit et pour les véhicules lents ou légers type deux roues.
Direction Touau cette fois, où la gendarmerie a renforcé son dispositif de sécurité après les violences survenues la semaine dernière.
La tension était encore vive ce week-end entre les habitants de la tribu de Kongouma et ceux du vieux Touau. Samedi, 70 personnes avaient tenté d'en découdre, mais les gendarmes étaient intervenus avant qu'un drame n'éclate. Malgré tout, 3 maisons ont été incendiées durant le week-end. Le général Mathéos évoque un dispositif de sécurité mis en place de jour comme de nuit.
Depuis le début du week-end, nous avons des difficultés dont l'origine remonte à la semaine dernière, des difficultés liées à des conflits entre tribus qui ont exigé la mobilisation d'une 50-60 gendarmes au plus fort de cette crise, donc qui dure depuis le début de ce long week-end et qui s'est traduite malheureusement par des exactions. Nous avons renforcé notre dispositif pour protéger les personnes puisque nous savons qu'il y a encore des velléités d'une partie des protagonistes de cette affaire compliquée et violente. Les racines du conflit sont un peu complexes. Toujours est-il que notre mission a bien été de protéger les personnes par un dispositif adapté le jour et la nuit. Par ailleurs, nous lançons une action judiciaire qui permettra d'impliquer les auteurs des exactions. Et je dois souligner que nous travaillons main dans la main avec les coutumiers locaux pour que la situation se tasse et s'apaise.
Et je rappelle qu'en début de semaine dernière, un jeune de 17 ans a été blessé à la tête à coups de sabre d'abattis et que 2 autres personnes ont été blessées plus légèrement. Des coups de feu avaient été tirés en direction d'une habitation, mais sans faire de victimes. Pour tenter de résoudre ce conflit, une réunion de médiation doit avoir lieu demain soir à Touau. en présence notamment des autorités coutumières.
Et également, deux individus seront jugés demain pour un vol en réunion au magasin Rôti de Normandie, alors qu'il était ouvert vendredi soir. Les malfaiteurs, qui étaient munis d'une barre à mine, sont partis avec la caisse. Grâce à un important dispositif de la police nationale, deux des trois personnes impliquées ont été interpellées et placées en garde à vue. Ils ont été écroués en attendant leur procès demain. Au Pécassis, samedi, un magasin de proximité a également été cambriolé. Là aussi, deux personnes, un majeur et un mineur, ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils seront prochainement convoqués devant la justice. On parle beaucoup de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Les responsables loyalistes qui sont sur place multiplient les rencontres pour informer sur la situation et s'exprimer dans les médias. Et le ministre des Outre-mer était hier soir pour nous l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1 et CNews, Jean-François Bodin.
Un accord est toujours possible, c'est le leitmotiv de Manuel Valls. Et le ministre des Outre-mer a répété ses convictions sur le dossier calédonien en réaffirmant les priorités. C'est à ses yeux la reconstruction économique et sociale, et notamment la reconstruction de la filière nickel, c'est la sécurité et c'est un accord politique. Sans accord politique, il n'y a pas de stabilité, a martelé Manuel Valls, à qui les journalistes ont fait remarquer que cet accord paraît loin après l'échec de Deva.
D'abord, le fil du dialogue n'est pas rompu au-delà des propos d'estrade, des mises en cause personnelles qui sont un grand classique.
Parlez de Mme Backès ?
Qui sont un grand classique de la vie politique en général et notamment en Nouvelle-Calédonie. Mais moi, je ne me laisse pas impressionner par cela. Le fil du dialogue n'est pas rompu et ce que je constate, c'est que tous les acteurs politiques, et évidemment économiques, mais tous les acteurs politiques pensent qu'il faut un accord. Et que cet accord est indispensable si on veut éviter le chaos. Donc, c'est pour cela que, au fond, d'une certaine manière, je considère, je l'ai dit, donc je l'assume, qu'il y a eu un échec dans le dialogue qui s'est tenu en Nouvelle-Calédonie, mais que c'est au fond qu'une étape.
Une interview que vous retrouverez en intégralité avec la diffusion, comme tous les lundis, du Grand Rendez-vous d'Europe, juste après ce journal. Sonia Backès et Nicolas Metzdorf se sont eux aussi exprimés sur CNews ce week-end. Vendredi soir, Sonia Backès a été interrogée sur ses inquiétudes concernant l'avenir. On lui a demandé si elle suspectait Manuel Valls de vouloir donner l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie.
Je ne suspecte pas, puisque Manuel Valls n'est pas le gouvernement. Manuel Valls a proposé la, je cite, « complétude de la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie » avec un transfert de toutes les compétences régaliennes, une nationalité calédonienne, un statut international de pleine responsabilité. Donc l'indépendance, malgré trois votes des Calédoniens contre l'indépendance, mais considérant que comme un certain nombre, une minorité a tout cassé, eh bien il faut lâcher à cette minorité l'indépendance. Donc il est heureusement à ce stade très isolé dans cette proposition, mais on s'interroge de comment le numéro 3 du gouvernement peut arriver en Nouvelle-Calédonie et proposer ça.
C'est-à-dire que vous suspectez qu'il est ce mandat, cette véritable mission, ce mandat du président de la République ?
Non, nous savons aujourd'hui qu'il n'a pas ce mandat
D'accord.
du président de la République. Le président de la République n'avait pas connaissance de ce projet. Il a d'ailleurs invité toutes les forces calédoniennes pour, je cite, « clarifier la situation ». Un certain nombre de membres du gouvernement, le ministre de l'Intérieur a envoyé François-Xavier Bellamy, le numéro 2 des Républicains, en Nouvelle-Calédonie pour affirmer que si Manuel Valls s'entêtait dans son projet, ça pourrait remettre en cause leur participation au gouvernement. Donc il n'est pas suivi, mais ça n'empêche qu'il est arrivé en proposant rien de moins que d'abandonner une partie du territoire national sans aucun mandat et en positionnant la négociation avec les indépendantistes dans une situation impossible puisqu'on leur offre l'indépendance. Comment voulez-vous qu'ils fassent marche arrière ?
Sonia Backès qui déclare qu'avec sa proposition, Manuel Valls a mis en place les conditions pour que la situation se tende à nouveau sur le terrain. Elle a aussi été interrogée sur les ingérences extérieures et notamment celle de l'Azerbaïdjan. De son côté, Nicolas Metzdorf était hier soir l'invité de Face à l'info, toujours sur CNews, pour faire le point un an après le début des violences insurrectionnelles. Le député de la première circonscription s'est notamment exprimé sur la situation de l'ordre public en Nouvelle-Calédonie.
Bruno Retailleau fait un bon travail pour le coup en Nouvelle-Calédonie puisqu'il maintient une vingtaine d'escadrons de gendarmes mobiles lorsqu'il n'y en avait eu que 5 lorsque les émeutes ont éclaté parce que toutes les forces de l'ordre étaient mobilisées pour les Jeux Olympiques à Paris. Aujourd'hui, Bruno Retailleau fait vraiment un effort particulier et c'est à souligner et je le remercie pour que l'aspect sécuritaire demeure en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, le problème, il est fondamentalement politique. Les indépendantistes n'arrêteront pas d'être indépendantistes. Nous, on défend forcément l'attachement de la Calédonie à la France. Et le sentiment qu'on a eu avec la visite du ministre des Outre-mer, c'est que vraiment, aujourd'hui, la violence avait gagné. C'est-à-dire que parce qu'il y a eu de la violence, parce qu'on ne sait pas finalement rétablir l'autorité de la France et puis redonner des perspectives et de l'ambition à ce territoire, finalement, on se dit, bon, ben, c'est un territoire qui est loin, ça nous coûte cher, on s'y intéresse pas trop, on n'a qu'à le lâcher.
Et comme député Renaissance, Nicolas Metzdorf a été invité à commenter les dernières déclarations du président de la République. Il a déclaré qu'on ne pouvait pas se désintéresser de la sécurité des Français, mais qu'Emmanuel Macron est celui qui a fait le plus pour que la Calédonie reste française.
RRB 17h55.
Allez, passons à l'actualité religieuse. Toute la journée, des centaines de jeunes ont convergé vers l'hippodrome de Bourail. Ils vont participer à partir de demain au rassemblement des jeunes chrétiens, organisé chaque année la semaine qui précède le pèlerinage de Téné, Jean-François.
Ils viennent de tout le territoire et se sont mis en route ce matin depuis leur paroisse, le plus souvent, pour gagner le site de Téné, où ils vont réfléchir sur le thème « L'espérance ne déçoit pas ». Parmi les jeunes présents sur le site dès cet après-midi, une vingtaine de collégiens de Saint-Joseph de Cluny.
Marie-Lou, 14 ans. Je suis venue avec le groupe de la chorale du collège Saint-Joseph de Cluny.
Participer à ce rassemblement de Téné, pourquoi ?
C'est une toute première, on n'a jamais fait ça. Et c'est aussi une première pour le collège, parce que ça représente ma foi pour Jésus. Enfin, c'est un moyen de dire que je crois en Jésus.
Brian, j'ai 14 ans.
Alors qu'est-ce que ça représente pour toi de venir à Téné ?
Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour nous permettre de encore plus nous rapprocher de Dieu.
Kélia, 14 ans, du collège Saint-Joseph de Cluny.
Le thème de cette année, c'est ?
L'espérance ne déçoit pas. Pour moi, ça veut dire qu'on n'est jamais déçu quand on fait confiance en Dieu et quand on y croit, on ne peut pas être déçu.
Et les jeunes qui se sont rendus sur l'hippodrome de Bourail ont été accueillis par le père Jacques Souta. C'est le prêtre référent de la jeunesse catholique de Calédonie.
C'est une édition assez spéciale parce que l'année dernière, on n'a pas pu se rassembler à cause des événements. Donc cette année, on pense qu'il y aura un peu plus de monde. Et les jeunes qui viendront, je pense qu'ils auront hâte de se rencontrer. Ils ont hâte de partager peut-être, partager leur expérience, partager leur foi. Le thème c'est l'espérance et chaque jour a son thème et un intervenant. Donc le matin on a un enseignement et les partages après dans les carrefours. Dans l'après-midi on a ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Voilà, les jeunes auront à exprimer ou à mettre en pratique ce qu'ils ont entendu le matin. Voilà, en faisant des petites choses sur le site. Il y a des ateliers bibliques où ils pourront continuer à approfondir le thème, mais avec cet esprit d'apprendre, voilà, d'apprendre et d'approfondir le thème de l'espérance.
L'an dernier, comme l'a rappelé le père Souta, le rassemblement des jeunes avait été annulé en raison de la situation insurrectionnelle. Les responsables du comité Marche pour Notre-Dame, dont Marie-Annick Surgeu est la vice-présidente, se réjouissent évidemment que la rencontre puisse avoir lieu cette année.
Ça fait plaisir de voir les jeunes arriver au compte-gouttes sur le site, surtout cette année, parce que bon, vu ce qui s'est passé l'année dernière, il n'y a pas eu de rassemblement suite à ce qui s'est passé. Donc voilà, et puis de réunir tous ces jeunes des différentes ethnies de la Nouvelle-Calédonie, ça fait chaud au cœur. Le thème est très particulier, donc l'espérance ne déçoit pas, vu ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Donc c'est le moment de faire de ces jeunes-là des papas, des petites mamans qui sont ici sur le site, là, des pèlerins de l'espérance et apporter la lumière, et chez eux d'abord, et autour d'eux, et ensuite toute la Nouvelle-Calédonie.
Arrivés sur place dans la journée, les jeunes assistent depuis 17h à la messe d'accueil célébrée par le père Souta, que vous avez entendu au micro de Kélinda Boicou. Dès demain, ils se retrouveront pour des temps de partage, d'enseignement, de prière et d'échange qui se prolongeront jusqu'à vendredi.
Et notez que demain matin à 7h30, nous serons en direct de Téné. Notre invité sera Simon-Pierre Sélui, le président du comité Marche pour Notre-Dame. Dans le reste de l'agenda cette semaine, le rassemblement des jeunes sera l'un des temps forts. Rappelons que le pèlerinage de Téné aura lieu samedi prochain et le rassemblement se conclura par la grand-messe célébrée dimanche matin à 9h par l'archevêque de Nouméa, Mgr Sioné Poé. D'autres rendez-vous sont à retenir pour cette courte semaine et comme ce sont les vacances scolaires, la ville de Nouméa relance à partir de demain le dispositif Proxicité en ouvrant dans les quartiers des espaces d'animation socio-éducative. Jeudi, la place des Cocotiers vivra au rythme d'un jeudi du centre-ville spécial Wallis et Futuna. Dimanche prochain, ce sera le départ de la New Caledonia Groupama Race, le tour de la Calédonie à la voile sans escale. Le village de la Groupama Race qui prend cette année ses quartiers sur la base nautique du CNC sera inauguré ce jeudi. Et puis, ce rendez-vous sur notre antenne demain midi dans le magazine Citoyen, nous nous intéresserons au désamiantage et à la déconstruction. Après les destructions d'entreprises et de bâtiments publics lors des émeutes de l'an dernier, les travaux de déconstruction ont débuté. Comment cela se passe-t-il ? Quelles Quelles sont les règles? Quels sont les processus? Les délais? Nous en parlerons demain avec Franck Olivier, directeur de l'entreprise Démolition Désamiantage NC, d'un représentant du cluster Acotrade et de Laurent Jandot, directeur du groupe Jandot. Citoyen, c'est demain midi, juste après notre journal de 11h30. Et en attendant, il est 18h tout pile. Première pause et on voit l'actualité nationale et internationale.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Gédimat, 51 rue Auer à Ducos, c'est le partenaire des pros et des particuliers. Peinture, lasure, revêtement de sol et mur, salle de bain, produits techniques, étanchéité, électroportatif et quincaillerie. Gédimat, 25 98 84 ou sur Facebook, Gédimat Nouméa.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Soir, Léana Colombo.
En métropole, un an après la dissolution de l'Assemblée nationale, ne passe toujours pas chez les Français. Emmanuel Macron ne peut que constater l'instabilité dans laquelle son coup de poker a plongé le pays. Son allocution prononcée dans la foulée de la claque reçue par son camp aux élections européennes a finalement accéléré la fin de son quinquennat. Et pourtant, pendant toute l'année qui s'est écoulée, personne n'a vu Emmanuel Macron rongé par le remords. Jacques Serret livre l'analyse de l'Élysée pour Europe 1.
Eh bien, l'introspection présidentielle est terminée. Depuis le 31 décembre dernier, l'analyse des conséquences de la dissolution n'a pas évolué selon l'entourage du président, qui renvoie vers cette expression d'Emmanuel Macron au réveillon de la Saint-Sylvestre.
Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. La lucidité et l'humilité commande de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité, et j'en prends toute ma part.
Des regrets assumés, mais en même temps, le palais s'emploie encore à justifier cette décision. Sur le fond, nous sommes toujours convaincus que la majorité allait dans tous les cas exploser à l'Assemblée, décrypte un proche du président. C'était inéluctable, poursuit un autre, qui assure sans ciller que cette dissolution a mis un coup d'arrêt à la progression du Rassemblement national. Reste qu'Emmanuel Macron ne semble pas prêt à s'y risquer une deuxième fois. Maintenant, il est réarmé, sourit l'un de ses lieutenants, mais il n'a pas l'intention de tirer.
Jacques Serret pour Europe 1. Et la seule vague qu'Emmanuel Macron peut encore surfer, c'est l'international. Il va d'ailleurs contempler l'horizon maritime à Nice pour l'inauguration qui a débuté à 18h pour nous, c'est-à-dire il y a quelques minutes. C'est pour le 3e sommet de l'ONU sur les océans. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, dont une délégation venant de Nouvelle-Calédonie, sont attendus. L'actualité à l'international, ce sont ces manifestations à Los Angeles. La ville est secouée par de violents affrontements entre manifestants et la garde nationale. Donald Trump a déployé cette armée de réserve pour tenter de bloquer les manifestations contre la politique migratoire de la Maison-Blanche.
Nous surveillons la situation de très près. Ils crachent, alors on riposte. Je leur ai dit, personne ne crachera sur un policier, personne ne crachera sur un militaire.
Les gouverneurs démocrates dénoncent un abus de pouvoir de la part du président américain. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui qu'entre en vigueur l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour les habitants de 12 pays, dont l'Iran, l'Afghanistan ou encore le Congo. Dans le reste de l'actualité, arrivé à quelques kilomètres des côtes palestiniennes, la flottille de Rima Assad et Greta Thunberg a été arraisonnée par l'armée israélienne, mettant un terme à l'opération de communication des 12 activistes. Tous les passagers ont été arrêtés et doivent bientôt être renvoyés vers leurs pays respectifs. Frédéric Simon, correspondant pour Europe 1 à Tel Aviv.
Oui, l'arraisonnement du voilier par les commandos marins israéliens s'est déroulé sans incident particulier. Aucun blessé de part et d'autre. Les militants pro-palestiniens n'ont pas opposé de résistance. Les commandos avaient reçu une consigne stricte, ne pas réagir aux éventuelles provocations des activistes. Le ministère israélien des Affaires étrangères a diffusé des enregistrements vidéo où l'on peut voir les soldats leur distribuer des bouteilles d'eau et des sandwichs. Rima Hassan, Greta Thunberg et les 10 autres militants ont été conduits vers le port d'Ashdod, dans le sud du pays, puis confiés aux soins de la police israélienne. Prochaine étape, leur probable expulsion dans le premier avion vers chacun de leur pays d'origine. C'est donc la fin de cette opération de communication pour ce que les autorités israéliennes ont qualifié de « yacht du selfie ». À noter que le ministre de la Défense, Israël Katz, a demandé que la vidéo des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre 2023 soit montrée aux passagers.
Et Jean-Luc Mélenchon a réagi sur les réseaux sociaux. Il dénonce une arrestation illégale et appelle à des rassemblements partout en France. 18h passées de 5 minutes, seconde pause et on voit tout le sport.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixone, Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Léana Colombo.
Et oui, le sport c'est tout d'abord du tennis avec la fin du tournoi de Roland-Garros. Carlos Alcaraz, sacré, a pris une finale épique, marche dans les pas de Rafael Nadal. L'Espagnol de 22 ans a conservé son titre au prix d'un combat dans 5 manches, 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 et de 5h30 face au numéro 1 mondial Yannick Sinner. Cyril de la Morinerie pour Europe 1 nous résume tout.
C'est de nouveau l'hymne espagnol qui a résonné hier sur le court Philippe Châtrier. Et à 22 ans, le natif d'El Palmar décroche son 5e titre en Grand Chelem, comme Rafael Nadal au même âge. Cette finale d'anthologie à Roland-Garros marque surtout le début d'un duel au sommet. Le nouveau roi de Roland-Garros a d'ailleurs rendu hommage à son adversaire italien.
Je suis très heureux d'écrire l'histoire avec toi dans ce tournoi et dans les autres. Tu es une source d'inspiration pour les enfants et pour moi aussi. Je te souhaite le meilleur pour ce qui arrive.
Hier, Alcaraz et Sinner ont offert un spectacle ébouriffant et bonne nouvelle, cette rivalité est partie pour durer, analyse le consultant tennis d'Europe 1, Cédric Pioli.
C'était la première fois qu'il se rencontrait en finale de Grand Chelem avec l'Italien. C'est lui qui a vaincu, donc ça, psychologiquement, je pense aussi que ça pourra rejaillir dans d'autres confrontations. Donc oui, exceptionnel, El Señor Alcaraz.
Yannick Sinner reste numéro 1 mondial, mais Carlos Alcaraz arrivera dans 3 semaines à Wimbledon, dont il est le double tenant du titre, avec beaucoup de confiance.
Et chez les dames, on rappelle que c'est l'américaine Coco Gauff qui est parvenue à s'imposer après avoir battu la Bélarusse Arina Sabalenka en 3-7, 7-6, 6-2, 6-4. On passe au football avec la fin de la Ligue des Nations. Un nouveau sacre pour Ronaldo avec l'équipe du Portugal et une 3e place pour la France, Jean-François Baudin.
Oui, les Portugais de CR7 sont imposés en finale sur l'Espagne, tenante du titre aux tirs au but. 5 tirs réussis à 3. La Roja a mené pourtant 2 buts à 1 à la mi-temps, mais la star portugaise a réussi à égaliser à l'heure de jeu pour offrir à sa sélection les prolongations et donc une victoire au tir au but. Dans la petite finale, ce sont les Bleus qui se sont imposés sur l'Allemagne, succès 2-0 avec Kylian Mbappé qui s'est illustré par un but à la 46e minute et une passe décisive à Michael Olysee, le capitaine de l'équipe de France, heureux de marquer à nouveau sous le maillot bleu.
Ça fait du bien, bien sûr. J'ai toujours voulu être important en équipe de France. J'ai toujours dit qu'il y avait rien au-dessus. Donc c'est sûr que ça fait plaisir de recommencer à être décisif, ce qui normalement doit être ma norme pour un joueur comme moi. Donc ça fait plaisir. Maintenant, c'est pas une finalité parce qu'au final, le plus important c'est de gagner. Aujourd'hui, on a gagné, c'est bien. Mais contre l'Espagne, c'est pas la chose que j'ai retenue d'avoir marqué et d'avoir fait marquer. C'est plus la prestation collective qui est de gagner.
Une victoire qui est aussi une satisfaction pour le milieu de l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni.
On a mis du temps un peu à rentrer dans le match, mais une fois qu'on a réussi à montrer nos qualités, à concrétiser nos occasions, on repart avec la victoire, donc on est plutôt satisfait. On a joué l'Allemagne, c'est une belle équipe, on a toujours envie de se confronter aux meilleurs, donc voilà, on avait à cœur de gagner ce match, parce qu'on sait que quand on gagne pas, on se fait toujours taper dessus, donc voilà, on voulait partir en vacances un petit peu plus tranquille.
Et l'équipe de France se contente donc du bronze dans cette compétition et termine cette Ligue des Nations 2025 à la 3e place après avoir perdu face à l'Espagne en demi-finale 5-4.
En cyclisme, la première étape du Critérium du Dauphiné a été remportée par Tadej Pogacar.
Le Slovène s'est imposé sur le fil devant le peloton et dans un groupe de favoris, d'abord emmené par le Danois Jonas Vingegaard à 5 km de l'arrivée. Si cette première journée était plutôt promise aux sprinteurs, elle a finalement donné lieu à une première explication entre favoris. Le meilleur français Hugo Page termine à la 7e place à 10 secondes du du vainqueur du jour. Ce soir, la deuxième étape, longue de 204 km, sera à suivre à partir de 21h20.
L'actualité sportive, côté calédonien, en force athlétique, Axel Raymond a décroché le titre de champion de France. C'est sa première distinction nationale dans la discipline. Après avoir remporté l'année dernière le titre de vice-champion du monde Masters, il s'est imposé dans la catégorie des moins de 93 kilos en terminant au passage deuxième du classement toutes catégories confondues. Une confirmation pour celui qui avait à cœur de prouver que sa médaille mondiale n'était pas due au hasard. Axel Raymond qui nous a fait part de sa réaction.
Ça y est, enfin, le titre de champion de France revient en Nouvelle-Calédonie. Après toutes ces années que j'ai attendues, c'est vraiment un gros plaisir d'avoir fait cette médaille, d'avoir lutté et surtout de ramener aussi le titre de vice-champion de France, toutes catégories confondues. C'était une grosse journée, une grosse compétition avec des athlètes au niveau mondial. Ça y est, enfin, j'ai décroché ma place pour les championnats du monde et je l'espère aussi pour les championnats d'Europe. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre le retour de la Fédération française pour les qualifications. Mais normalement, ça y est, on l'a fait et la Calédonie sera représentée encore une fois au championnat du monde en Afrique du Sud.
Et une performance remarquable pour celui qui avait pu participer au dernier Mondiaux Masters grâce à un repêchage. Cette fois, Axel Raymond devrait passer par la grande porte pour rejoindre l'équipe de France lors des prochaines échéances internationales. Un stage de formation FIFA destiné aux arbitres de football locaux est en cours depuis samedi dernier. Organisé par la Fédération calédonienne de football et du pôle arbitrage, il vise à professionnaliser davantage la profession sur le territoire. Les élèves alternent modules théoriques et exercices pratiques, accompagnés de deux formateurs expérimentés. Parmi eux, Kader Touati, préparateur physique à la FIFA. Il évalue les participants avec des tests de sprint, de changement de direction ou encore d'endurance. Des exercices où la performance est capitale.
Dès que tu es arbitre, il faut vraiment une condition physique si tu ne l'as pas. C'est vrai que là, ça pêche beaucoup. Tu ne peux pas être proche de l'action et tu ne peux pas donner une décision qui est appropriée. Les tests physiques, c'est ton passeport. C'est ton passeport pour pouvoir passer la frontière, tu vois. Tu peux ne pas être forcément très physique et faire un match d'exception. Donc on ne demande pas à être vraiment des athlètes genre Usain Bolt ou un marathonien. Non, non, c'est vraiment... dès qu'il y a un moment où il y a une attaque contre attaque, tu dois être proche, tu dois être prêt, tu dois anticiper, tu dois changer de direction. Donc ce que je suis en train de leur inculquer, et puis je vais leur donner les résultats demain avec des graphiques, avec voilà ce qu'ils te manque, voilà ce que tu dois travailler, voilà ce que tu dois améliorer. Et certains, c'est je sais pas ce que tu fais là. C'est mon rôle, c'est de venir ici et c'est de vraiment te pousser et te dire voilà, t'es dans la mauvaise direction. Là, je vais te mettre dans les droits chemins.
Une vingtaine de jeunes arbitres, hommes et femmes, sont présents pour perfectionner leurs compétences. Séquences vidéo, mise en situation sur le terrain, tout est mis en place pour faire progresser les officiels locaux. Anglement, Emmanuela, 22 ans, arbitre assistant à la Confédération du football d'Océanie, revient sur son parcours et ce que lui apporte cette formation.
J'ai commencé l'arbitrage, c'était pour aider mon club qui n'avait pas beaucoup d'arbitres. Ensuite, j'ai fait une formation en FIFA et j'ai intégré la Super League ici en Nouvelle-Calédonie. Tous les samedis, des matchs et il faut vraiment vouloir faire. Il ne faut pas juste trouver une occupation ou vouloir ça pour l'argent. Pour moi qui étais déjà arbitre depuis un moment, c'est comme des mises à jour sur les nouvelles lois du jeu. J'ai déjà franchi une étape ce matin d'avoir réussi mes tests et au mois d'août, je pars au Samoa pour une compétition des U16 filles. Pourquoi pas pour la suite évoluer dans l'arbitrage. Peut-être pas maintenant, mais dans quelques années, si après je me donne les moyens, peut-être un jour être arbitre FIFA.
Le stage s'achèvera ce mercredi avec un bilan des compétences et un retour individuel de la part des formateurs. Avant de refermer ce journal, en ce début de vacances, certains parents travaillent contrairement à leurs enfants. Il faut donc les occuper et pourquoi pas en leur offrant une initiation aux arts plastiques. Les ateliers du Faubourg accueillent de nombreux artistes cette semaine. Aujourd'hui, c'est Marion Dionnet, dessinatrice, qui a choisi de partager sa passion et sa créativité avec les plus jeunes. Au programme, atelier dessin, collage, aquarelle autour d'un thème qui plaît aux enfants.
Donc là, le thème, c'est la fête foraine. Est-ce qu'il y a vraiment matière à faire avec rien que les attractions, ça va du train fantôme à la grande roue, les couleurs, les lumières. C'est un bon terrain de jeu pour le dessin.
C'est quoi le but de ces ateliers d'art plastique ?
C'est de leur faire découvrir plusieurs techniques et développer vraiment l'imagination. Il suffit de trouver les bons trucs et puis on peut les emmener loin. C'est très chouette.
Est-ce que je peux allumer et éteindre ?
Alors oui, mais le problème, c'est que comme là, tu as déjà mis du blanc.
En fait, on fabrique une fête foraine.
chaîne qu'on veut avec du papier. Là, on est en train de faire la grande roue avec de l'encre chinoise. Après, on laisse sécher. Après, on va repasser au Posca blanc pour faire les petites lumières.
Je suis en train de faire une grande roue. Et en bas, il y a des bâtiments. Vu que c'est le coucher de soleil, les bâtiments ils sont noirs. Et après, on va prendre un Posca et on va faire les petits vitres des bâtiments.
Moi, j'ai voulu venir parce que j'adore l'art plastique. Aussi, j'aime beaucoup Marion, qui est notre prof et qui nous aide à faire des jolies choses.
Et place au théâtre la semaine prochaine. Les ateliers du Faubourg accueilleront Catherine, 19 ans, pour un stage de théâtre. L'artiste Marie Claudel proposera quant à elle un atelier modelage. 18h15, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et alors, pas de vacances pour vous non plus, hein, Nicolas, mais toujours au rendez-vous pour la météo.
Oui, bien sûr. Alors, cette nuit, les nuages qui intéresseront les pointes nord et sud, l'île des Pins et des Loyautés persisteront et donneront quelques averses en soirée. Ailleurs, le temps sera sec, le ciel souvent étoilé. Le vent de nord-est de 5 à 10 nœuds soufflera entre 10 et 15 nœuds aux extrémités nord et sud. Il dépassera parfois les 15 nœuds en sortie des vallées de sur l'ouest. Les températures minimales varieront de 16 à 21 degrés. Demain matin, la moitié sud et les Loyautés conserveront des conditions agréables, même si le ciel restera voilé en altitude. Sur les autres régions, les nuages seront plus présents, mais le temps restera généralement sec. Le vent d'est à nord-est avoisinera les 5 nœuds. Le vent sera plus fort aux extrémités de la Grande Terre, où il atteindra 10 à 15 nœuds.